Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin, Gwendal Jean, il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Morbihan. Il est venu de loin, de l'Orient, il a traversé la Bretagne quand même pour nous rejoindre ici au micro de la matinale. Soyez-en remerciés, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors nous allons parler évidemment de politique ce matin. J'avais envie de commencer par ce qu'on appelle l'actualité chaude dans notre jargon, à savoir la guerre en Ukraine et ces conférences de presse hier entre le président Trump et le président Macron. On semble s'acheminer vers quelque chose qui ressemble, sinon à une trêve, au moins à une fin du conflit. On a entendu un Trump très offensif, qui parle business finalement. J'imagine que c'est loin de vos concepts et que voilà, finalement, ça reste quelque chose qu'il va falloir surveiller, cette trêve, en tout cas cette fin de la guerre en Ukraine. Comment vous avez reçu toutes ces annonces ?
Évidemment, il faut un cessez-le-feu et il faut que les combats cessent en Ukraine, les combats qui ont fait jusque-là énormément de morts et beaucoup trop. Et je tiens ici à les souligner, à le rappeler. Il faut donc un cessez-le-feu, il faut travailler sur une paix, et une paix qui n'est pas, selon les termes de Donald Trump, une paix qui serait celle dictée par Vladimir Poutine. Il faut une paix qui revienne aux frontières originelles de l'Ukraine et qui ne soit pas une paix économique, qui soit une paix durable, dans laquelle les Européens prennent toute leur part. Parce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine s'arrête à l'Ukraine, mais si on lui laisse le champ libre, demain ce sera la Pologne et puis ce sera toute l'Europe. Et donc il en va de notre sécurité collective. De travailler sur une paix qui soit durable et qui soit une paix juste pour les Ukrainiens et qui soit donc un retour aux frontières initiales.
On a entendu le président américain prononcer plusieurs fois le terme de troisième guerre mondiale. J'imagine pour un jeune comme vous en politique, ça résonne, ça inquiète.
Évidemment, je considère que le terme de troisième guerre mondiale est là. Et brandi un petit peu pour effrayer les esprits et faire peur aux gens et pousser à une paix qui soit celle que le président Trump veut, c'est-à-dire une paix économique et une paix qui soit fondée sur des accords notamment sur les minerais. Et donc cet argument
C'est une forme d'épouvantail,
de populisme.
Un petit peu. Il agite un épouvantail pour faire peur finalement à l'Occident. Ce rapprochement Trump-Poutine, c'est quelque chose d'inquiétant là aussi pour nous Européens finalement.
Évidemment. J'encourage les leaders européens à prendre toute leur part dans la résolution de ce conflit et pas seulement sur le court terme, mais aussi à long terme. Et je pense qu'il est important aussi de remettre dans le débat public la question de la défense européenne que nous avons défendue pendant les européennes et de mettre en place une armée qui soit là pour défendre l'Europe et qui permette de contrer les volontés expansionnistes, notamment de la Russie, mais aussi de Donald Trump au Groenland, par exemple. Et dans les territoires souverains européens.
Avec un Donald Trump, là aussi, on le voit très, très expressif, vous faisiez référence au Groenland. Il y a des velléités de conquêtes économiques, Donald Trump, aujourd'hui, avec une Europe qui est assez faible économiquement. Est-ce que là aussi, ça peut être, enfin en tout cas, ça peut constituer un sursaut pour l'Europe ? Est-ce que l'Union européenne peut se resserrer finalement face à cette espèce d'hégémonie américaine ?
L'Europe doit se réaffirmer, évidemment, et doit affirmer une position claire et une position diplomatique qui soit la sienne et non pas derrière celle toujours derrière les États-Unis, et fonder un véritable troisième bloc, si on peut le dire comme ça, entre la Russie d'un côté et la Chine, la Chine et la Russie d'un côté, pardon, et les États-Unis de l'autre, et qu'elle affirme, donc notamment par la défense européenne et la diplomatie européenne, une position qui soit la sienne, et donc la position qui soit celle du droit international et du respect des États souverains et de la souveraineté des États.
Avec aujourd'hui beaucoup de menaces, outre Donald Trump, on dira un petit mot tout à l'heure du terrorisme, mais on a aussi cette menace du populisme qui arrive. Trump ouvre la porte, on le voit en Allemagne avec cette percée historique de l'AfD, donc du parti d'extrême droite allemand. Est-ce que là aussi, pour le jeune en politique que vous êtes, c'est quelque chose qui vous inquiète pour les années à venir, cette résurgence quelque part du populisme? Ce conservatisme qui gagne l'Europe.
Évidemment, et la montée du populisme, on la voit partout en Europe et pas seulement. Et je tiens à souligner que en Allemagne, le cordon sanitaire n'est pas encore rompu, parce qu'on a vu en France que ça n'a pas toujours été le cas, notamment avec le gouvernement Barnier, qui n'a fait que céder la main à Marine Le Pen. Et j'espère qu'il y aura un sursaut dans les temps à venir de François Bayrou. Ça a l'air d'être compliqué, mais au moins de nos prochains dirigeants quant à la lutte et quant à la barrière contre le Rassemblement National et l'extrême droite en général. Et donc évidemment c'est inquiétant, ça nous pose question, et donc je souhaite, parce que le vote Rassemblement National et le vote populiste de manière générale attire une grande partie de ma génération. Je souhaite que l'on travaille aussi dessus, sur démontrer que les arguments du Rassemblement National sont des arguments faux, tronqués, et donc que leurs propositions ne sont pas viables, et que nous proposons des choses qui nous font avancer et qui vont dans le sens de l'aide aux plus démunis. Et non pas une politique libérale comme nous la vivons depuis 7 ans avec Emmanuel Macron.
Alors sur plein de sujets, on a entendu souvent les électeurs reprocher à la gauche qui a été, alors je dis la gauche dans son ensemble, qui a été aux affaires, en tout cas en ce qui concerne le Parti Socialiste, de ne pas s'être emparé par exemple de sujets tels que l'immigration, tels que la sécurité. Est-ce que vous en payez un peu le tribut aujourd'hui? Est-ce que, voilà, il faut réagir sur ces sujets, réagir humainement évidemment à travers l'esprit du Parti Socialiste, mais est-ce que vous en payez pas un peu le tribut aujourd'hui, de ne pas vous être emparé de ces sujets?
Il est vrai qu'on a peut-être eu certains manques, mais je crois aussi que l'obstination quant aux questions d'immigration et de sécurité, ça c'est un fait, mais d'immigration est une sorte de para. Mm-hmm. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qui passe son temps à nous parler d'OQTF, de délinquance et d'immigration, de lien entre délinquance et immigration, moi je pense que c'est un faux,
c'est pas forcément le sujet du moment pour vous. Il faudrait parler d'autre chose, de social.
En tout cas, il faudrait parler d'autre chose. Oui, évidemment, mm-hmm. Il y a les violences faites aux femmes. Il y a l'égalité homme-femme. Et puis il y a plein d'autres sujets qui devraient intéresser le ministre de l'Intérieur, et non pas que la lutte contre l'immigration de manière générale. Oui.
Avec cependant une attente des Français, on l'entend, il y a eu cette attaque à Mulhouse le week-end dernier qui a fait un mort, une personne, un Portugais qui s'est interposé entre un assaillant et des policiers. C'est réel, c'est dans nos rues et ça préoccupe les Français aujourd'hui. Il faut une réponse, on imagine bien, à cette violence. Comment y répondre alors que des pays comme l'Algérie ne veulent pas reprendre justement les OQTF, en tout cas ceux qui créent des problèmes sur le territoire français? Est-ce que là aussi il faut avoir une politique diplomatique avec l'Algérie ou avec des pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants qui peuvent commettre des actes de terrorisme sur notre territoire?
J'aimerais juste rappeler pour commencer ce que c'est qu'une OQTF, parce qu'on en parle beaucoup, mais je crains que peu de gens savent ce que c'est. Une OQTF, c'est une décision qui est prise par un préfet sur simple défaut de titre de séjour. Donc, qui peut toucher tout le monde, qui peut toucher également un infirmier, une infirmière que l'on croiserait dans nos hôpitaux publics, un personnel de supermarché, enfin bref, tout le monde. Donc, il ne faut pas non plus brandir toujours l'excuse de l'OQTF. Voilà, ça peut vraiment toucher tout le monde et ça n'est pas un facteur de délinquance.
Il faut requalifier justement ces fameuses OQTF entre ceux qui, et celles qui viennent, qui travaillent, qui sont intégrées sur le territoire français et ces personnes qui viennent, elles, pour commettre des délits.
En tout cas, quand on travaille, il faut évidemment permettre aux personnes qui travaillent d'être régularisées et d'avoir accès au titre français pour pouvoir continuer de travailler parce qu'ils contribuent à faire fonctionner notre économie et qu'ils cotisent, ils travaillent, ils participent à la vie économique. Donc nous devons leur rendre en retour un titre de séjour.
Vous comprenez que ça inquiète quand même effectivement aujourd'hui cette violence dans les villes. Alors c'est le cas ici aussi en Bretagne, hein, on prend le cas de Rennes ou de Brest, de Lorient, où on a aussi cette flambée du trafic de stupéfiants. Est-ce que là aussi il faut avoir un côté plus coercitif, j'allais dire plus ferme, ou est-ce qu'il faut passer par la prévention? Est-ce qu'il faut amener aussi l'éducation dans les quartiers? Est-ce que là il y a deux visions de la société entre la vision de la gauche et la vision des partis plus conservateurs ou de la droite qui s'opposent?
Eh bien, la politique de fermeté, c'est la politique qui est mise en place par Bruno Retailleau, puis Gérald Darmanin avant, et des ministres sous Sarkozy encore avant. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on aille dans les quartiers avec des policiers locaux, des policiers municipaux, donc la remise en place de brigades locales qui connaissent les quartiers et aller vraiment mener une politique de prévention et de lutte au plus près, de lutte contre les narcotrafiquants au plus près des quartiers et éventuellement sur certaines drogues, je pense par exemple au cannabis, pourquoi pas mettre dans le débat sa légalisation et donc ce qui permettrait d'avoir un regard sur ce marché et de réguler un peu les flux par sa légalisation. Et donc c'est un rapport parlementaire qui le dit, qui va de LFI jusqu'à La République En Marche. Donc on voit bien que c'est une possibilité aujourd'hui qui pourrait être unanime, enfin pourrait être majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc il faudrait, je pense, mettre cette possibilité sur la table.
Alors avec un paysage politique, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet politique, un paysage politique qui peine là aussi en France à trouver une forme de stabilité, bien que les motions de censure, en tout cas la dernière, n'aient pas été votées par, quelques députés socialistes, mais n'a pas abouti. Est-ce que finalement il fallait revenir à une forme de stabilité pour pouvoir gouverner ce pays qui devient un petit peu compliqué à gouverner qu'un petit air de 4e République? Et on a vu quand même qu'il y a cette scission au Parti Socialiste aujourd'hui entre les députés qui ont voté et pas voté la motion de censure, mais aussi plus largement sur l'union de la gauche, sur le fameux NFP. Est-ce que c'est la fin de l'union de la gauche? Est-ce que on va vers un retour du Parti Socialiste qui va se mettre en ordre de marche, peut-être pour les élections, on va en dire un mot tout à l'heure, ou est-ce que finalement l'union de la gauche, elle a tangué, mais elle est toujours là?
Sur la dernière motion de censure, nous avons décidé de ne pas la voter parce qu'il fallait tout simplement un budget à la France. Ce budget, on a voté contre. On a eu quelques avancées, mais très peu. On a quand même travaillé, et je tiens à souligner, par le biais de nos présidents de groupes parlementaires et d'Olivier Faure, pour des avancées, notamment dans l'éducation, dans la santé. Mais nous n'avons pas voté la motion de censure pour permettre aux associations de recevoir leurs subventions et au pays, de manière générale, d'avancer. Cependant, on a déposé une motion de censure juste après pour dénoncer la dérive du gouvernement Bayrou qui laissait qui plaçait de nombreuses thèses de l'extrême droite dans son discours.
Ce fameux propos de submersion migratoire,
voilà,
c'était
ça.
Le propos du Premier ministre.
C'est ça. Et donc pour revenir sur l'union de la gauche, l'union de la gauche aujourd'hui est toujours présente, le nouveau Front Populaire existe toujours, et nous allons toujours travailler pour l'Union de la Gauche, notamment avec les écologistes et les communistes, avec lesquels on a travaillé pour avoir des avancées dans le budget précédent. Donc voilà, et l'Union de la Gauche continuera à se faire, notamment au niveau local, vous le parliez sur les prochaines élections. Et sans Union de la Gauche, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on arrachera des victoires. Et l'Union de la Gauche continue, on a bien vu sur, à la niche parlementaire des écologistes, où nous avons voté d'une même voix la loi sur, sur les polluants éternels et une autre loi proposée par le groupe écologiste. Donc l'Union de la Gauche aujourd'hui existe encore, à défaut, au contraire, enfin, même si certains voudraient nous faire croire qu'elle n'existe plus, aujourd'hui nous nous sommes toujours mobilisés pour l'Union de la Gauche en tout cas.
Donc soubresaut néanmoins, parce qu'il y a eu des paroles dures hein, entre Olivier Faure par exemple et certains responsables de LFI, voilà, on a même entendu Jean-Luc Mélenchon dire voilà c'est fini, le Parti Socialiste ne fait plus partie de NFP. Voilà, c'était juste des soubresauts où il y a quand même eu un petit coup de canif.
Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pas lui qui décide qui est membre du NFP et qui ne l'est pas. Donc il peut très bien parler, mais nous travaillons. Et nous travaillons pour faire avancer les choses et pour permettre aux Français des avancées, notamment dans le dernier budget, comme je l'ai déjà dit. Et donc il y a eu effectivement du débat, et le débat il est sain. Et donc nous préférons avancer éventuellement avec quelques débats, quelques hauts et quelques bas. Mais en tout cas, nous restons mobilisés pour l'Union de la Gauche et nous travaillons toujours pour cette union et pour qu'elle perdure dans le temps.
Avec prochainement un congrès du Parti Socialiste qui, dit-on, pourrait voir Olivier Faure être un peu poussé vers la sortie, est-ce que là aussi il y a une inquiétude de tangage, si vous me permettez le terme maritime, au plus haut niveau du PS?
Olivier Faure a entrepris un travail de transformation majeure du Parti Socialiste depuis 2018. Et je crois que ça a été la bonne voie. On a fait, enfin, je n'étais pas encore adhérent, mais on a fait un bon choix. Et donc aujourd'hui, je pense que Olivier Faure doit rester et continuer les transformations qu'il a entrepris et son travail pour l'Union. Alors j'entends certains qui nous parlent d'une volonté d'une forme d'indépendance du Parti Socialiste, alors que le Parti Socialiste a toujours affirmé, et on a bien vu, hein, il y a eu ses oppositions à Jean-Luc Mélenchon, ses oppositions à certaines, à certains propos insoumis, donc a toujours affirmé son indépendance. Et donc, je pense qu'Olivier Faure doit rester, qu'Olivier Faure doit continuer son travail, le travail qu'il a entrepris, et que le propos amené sur la table par certains qui, on a l'impression que c'est plutôt sur des volontés personnelles en vue des présidentielles prochaines, ne doit pas interrompre le congrès et ne doit pas, enfin.
On a le sentiment quand même qu'il y a deux courants au Parti Socialiste. On a sans doute beaucoup plus que ça, c'est notoriété, mais au moins deux courants, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'Olivier Faure, et vous en faites partie, poursuivre son travail à la tête du Parti Socialiste, et ceux qui veulent finalement tourner la page, qui reprochent aussi à Olivier Faure d'avoir... de s'être un peu couché, vous me permettez le terme, il est peut-être un peu fort, vous pourrez le démentir, mais de devant LFI pour pouvoir faire en sorte que le PS continue d'exister.
Eh bien, Olivier, il ne s'est pas couché, il a travaillé pour permettre l'union de la gauche à des moments compliqués. Voilà. S'il n'avait pas permis en premier lieu la NUPES, qui évidemment n'était pas en accord parfait, loin de là. Et sur le NFP qui était nécessaire dans la lutte contre l'extrême droite et après le barrage républicain, c'est des chantiers qui étaient nécessaires et qui nous permettent aujourd'hui d'exister avec un groupe parlementaire qui a plus que triplé et donc plus que doublé pardon Et donc,
parce que l'EPS revient de loin finalement. Hein, si on prend en considération les chiffres de la présidentielle, avec un peu plus de 1,5%, il fallait reconquérir le terrain, il fallait se réapproprier les esprits, si vous me permettez le terme.
C'est ça. Et il fallait en tout cas travailler, retravailler, parce que le parti avant peut-être ne travaillait plus assez. Mmh. Et aujourd'hui, les gens qui critiquent ce qui a été entrepris par Olivier Faure sont des gens qu'on n'entendait plus après 2017 et qu'on réentend aujourd'hui. Donc, ça veut
dire... Des velléités de retour en politique, finalement.
C'est ça. Ça veut dire que, dans un sens, ce qui a été mené par Olivier Faure a marché. Si aujourd'hui, on parle autant du Parti Socialiste, c'est que nous avons repris une place centrale dans le débat public et que, par nos résultats électoraux, nous arrivons à reconquérir certains électeurs et certains électorats que nous avions perdus, notamment en 2017 et en 2022 encore plus.
Vous disiez tout à l'heure, Gwenaël Jean, que beaucoup de jeunes se tournaient vers le Rassemblement National, voilà, pour peut-être là aussi essayer d'apporter d'autres idées, un débat différent évidemment de celui, ou en tout cas des idées défendues par le Parti Socialiste. Je le disais en commençant, vous faites partie de ces jeunes, de cette jeune génération qui a décidé de s'impliquer en politique. Vous avez un congrès prochainement, les jeunes socialistes. Est-ce que c'est une question aussi qui vous interpelle, le fait que des jeunes se tournent vers des partis populistes, alors ici en France, le RN, mais d'autres partis en Europe?
Évidemment, et dans mon action et dans mon combat, c'est le premier combat que je porte. Voilà, si je me suis engagé, moi, c'est parce que le Rassemblement National dans mon village était un score très haut. Et donc, dans nos territoires ruraux de Centre-Bretagne, qui pourtant, la Bretagne résiste assez à la montée du Rassemblement National jusque-là. Donc c'est un combat que je porte avec foi. Et évidemment, nous, du côté des jeunes socialistes, nous travaillons pour expliquer et débattre auprès des jeunes qui seraient
tentés par
le vote Rassemblement National, voire plus, de leur expliquer et de contre-argumenter et de démonter les arguments du Rassemblement National qui sont les faux, enfin qui sont des arguments populistes et qui ne permettent pas, enfin qui ne vont pas dans le sens de la jeunesse. Et on a bien vu, ils n'ont pas voté le repas à 1 euro, ils n'ont pas voté l'augmentation des bourses. Voilà, c'est une hérésie, le Rassemblement National. Il se pose comme défenseur de la jeunesse et défenseur des classes populaires, mais dans l'action, dans les faits, ils sont tout l'inverse.
Vous comprenez que des jeunes, des gens de votre âge se tournent vers le RN, vous arrivez à en discuter avec eux, y compris avec des militants parfois du Rassemblement National?
Évidemment, on discute, c'est la base pour les convaincre. Avec les militants, c'est plus compliqué, mais aujourd'hui, on est dans une génération quand même qui est plus volatile et qui est moins adhérente. Mmh. Donc voilà, on pousse à l'engagement, mais du côté du Rassemblement National, nous, dans le Morbihan, les militants, on les voit pas. Mmh. Donc, on discute pas réellement avec les militants, mais en tout cas, on discute avec les jeunes et tous les jeunes, qu'ils soient tentés ou non par le vote du Rassemblement National. Parce que si on commence à les mettre de côté et qu'on ne discute pas avec eux, eh bien aujourd'hui ils votent Rassemblement National, mais demain ils seront deux fois plus à voter Rassemblement National. Donc évidemment, nous discutons avec tout le monde et nous sommes ouverts au dialogue, et c'est la base, c'est ce qui va nous permettre de lutter, c'est le meilleur moyen pour lutter contre le vote Rassemblement National chez les jeunes et même chez toutes les générations.
Je parlais de votre congrès des jeunes du Parti Socialiste. Quels sont les grands dossiers qui vont être défendus? Alors j'imagine qu'il y a déjà la perspective des élections municipales et puis un peu plus tard de l'élection présidentielle de 2027. Mais est-ce qu'il y a des grands sujets directeurs?
Évidemment, donc il y a le logement étudiant. Il faut travailler sur le logement étudiant pour étendre, parce qu'aujourd'hui l'offre privée représente la majorité des logements et donc ce sont des gens qui se font de l'argent sur le dos des étudiants qui sont de plus en plus précaires. Le repas à 1 euro, enfin tout ça sont des sujets autour de la vie étudiante sur lesquels nous allons évidemment nous pencher. Il y a la lutte contre l'extrême droite, comme on en a parlé, et puis les dossiers plus généraux, je dirais, comme la transition écologique, tout ça. En fait, on va essayer de balayer le plus large champ de dossiers pour sortir du congrès avec des propositions concrètes pour les jeunes et pas seulement. Et puis, comme on parle du congrès des jeunes socialistes, je tiens à souligner le travail de la direction sortante et de Emma Rafovic, la présidente sortante, aujourd'hui eurodéputée, depuis 2020, je crois, qui a refondé un mouvement qui était presque HS. Et donc, donc je tiens à souligner son travail, leur travail, à tous.
Dans cet engagement, il y a aussi la volonté de proposer des choses. Je parlais du congrès, j'allais dire des grands socialistes, si vous me permettez de le terminer un peu trivial, mais en tout cas, le congrès du Parti Socialiste. Les jeunes entendent peser dans l'avenir du Parti Socialiste, entendent peser aussi sur les décisions qui sortiront du futur congrès.
Évidemment, et c'est pour ça que nous avons un mouvement structuré avec un président qui porte notre voix, une présidente en l'occurrence, qui porte notre voix, notamment en bureau national, en conseil national du Parti Socialiste, parce que nous voulons vraiment que notre voix soit entendue et écoutée par la direction. Et même, à chaque fois, nous avons su montrer notre indépendance vis-à-vis de la direction du parti, que ce soit au niveau local qu'au niveau national. Et nous avons porté, parfois minoritairement, des positions en bureau national. Et donc voilà, nous voulons vraiment peser et à minima faire entendre notre voix et nos positions quand elles ne sont pas en accord avec la direction.
Il y avait besoin de dépoussiérer un petit peu le Parti Socialiste, y compris après les scores, il faut bien le dire, calamiteux de la présidentielle. Il y avait besoin de le dépoussiérer, d'amener un peu de jeunesse, d'amener une forme de dynamique aussi, de nouvelle dynamique.
Il y avait besoin, ouais, en tout cas, de retravailler autour des militants. Et il y avait besoin d'une jeunesse, évidemment, mais il y avait aussi besoin de militants qui étaient déjà là, qui connaissent le travail, qui connaissent le militantisme. Voilà, donc ce qu'il faut en fait, c'est un balayage générationnel pour pouvoir avancer, voilà, si bien sur des propositions qui soient celles des jeunes, mais qui soient aussi travaillées avec des plus anciens. Et donc voilà, il faut de la jeunesse et il faut tout le monde, il faut de toutes les générations.
Voilà, il faut que ce soit intergénérationnel.
C'est ça.
Aujourd'hui, il reste une petite minute, vos priorités, on va parler du Morbihan, c'est quoi? C'est les élections, les prochaines élections municipales? Vous êtes déjà en campagne, si j'ose dire?
Nous commençons à travailler évidemment sur des projets municipaux. Voilà, ce que nous voulons, nous, c'est des projets municipaux ambitieux qui placent la jeunesse au centre de leur programme. Et nous voulons aussi travailler avec une gauche qui soit ambitieuse, sérieuse et ouverte. Voilà. Et nous voulons vraiment que ce soit des programmes qui soient travaillés par des collectifs qui incluent les organisations de jeunesse de manière générale, les partis politiques, les syndicats, voilà, les acteurs économiques locaux. En fait, ce que nous voulons, c'est travailler sur quelque chose de très large et qui permettent d'avancer, parce que dans le Morbihan, nous avons quelques difficultés, enfin, nous avons peu de bastions de gauche. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est travailler, arracher des mairies à la droite, et puis proposer à chacune et chacun des Morbihanais et Morbihanaises des programmes ambitieux portés par une gauche sérieuse, et qui place, voilà, la transition écologique, la lutte pour l'accessibilité, la jeunesse, le logement, et j'en passe, au centre de leur programme.
Gwendal Jean était avec nous ce matin, animateur fédéral des jeunes socialistes du Morbihan, qui a fait une longue route pour être avec nous en direct au micro de La Matinale. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous, au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.